sont tétanisés là. Hein.
Blague.
Oui, très rapidement, ben, j'ai beaucoup apprécié toutes les interventions. Je me dis, bon, pour faire une formule à l'emporte-pièce, bon, il y a eu la séparation de l'Église et de l'État, aujourd'hui l'enjeu c'est de séparer l'État et l'argent. Donc, on voit qu'il y a des convergences intellectuelles, il y a un foisonnement, et la question fondamentale, c'est comment on fait pour y aller. Et en nous écoutant, je me dis, peut-être que finalement... La création des universités, c'est peut-être la solution qu'ont trouvé les puissants pour neutraliser tous les individus qui étaient en mesure de porter un jugement critique et des
individus.
On va vous enfermer, vous allez discuter entre vous, non, vous allez vous laisser faire le business. Donc je crois que la question qu'on devrait tous se poser, c'est comment on fait aujourd'hui pour impacter la société. Il faut continuer ce travail académique, je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il y a le concept de performativité critique, quoi, hein. Il faut absolument qu'on se saisisse de cette dimension pour gagner la bataille, qui est une bataille politique et qui se mènera avant tout dans le réel. Voilà, merci.
Une toute petite information que vous avez peut-être déjà sur les études de terrain, parce que vous êtes d'accord pour dire que sans études de terrain en profondeur, peu de ces choses sont identifiables, peu de ces objets sont traitables. Or, il pèse actuellement avec les comités d'éthique sur les études de terrain un danger dont personne ne semble conscient, c'est-à-dire qu'on risque fort entre la protection des données personnelles, la protection des personnes et la protection du secret des affaires, de ne plus pouvoir faire d'études de terrain. Allez en Australie et essayez de faire des études de terrain, vous allez voir ce que vous allez voir. Là où c'est déjà... Et donc, il faut faire très attention aux comités d'éthique parce qu'ils sont en train de nous interdire le terrain.
Mais la capture de la donnée, c'est pas nouveau, et notamment dans le secteur financier. Moi, je suis très frappée, encore, je ne suis pas universitaire, mais j'ai l'impression que si on cherche des chiffres internes sur BNP Paribas, on ne les ajuste pas. Et c'est ce qui s'est passé au moment de la loi de séparation bancaire. On a ce qui nous donne, pour terminer. Voilà,
la discussion est close.
La finance est une boîte noire gigantesque pour le citoyen, pour l'académique et pour le politique.
Ben, pour une réaction sur ça, c'est bien. Et quand même, vous avez à un moment donné abordé la question de la complexité comme un facteur de difficulté à entrer dans le truc. Ce dont on peut effectivement convenir, hein, mais parler d'arriver à combiner les approches, c'est que si vous voulez combiner quelque chose, il faut que chacun rentre un peu dans les sujets de l'autre. Quoi. C'est-à-dire que si on peut dire ça, c'est trop complexe, donc on en est exclu. Et donc, ben, je vais essayer d'imposer dans notre truc. On a un objet où chacun essaie de rentrer, enfin, et on ne rentre pas et on n'arrive pas à combiner les effets parce que, moi je ne comprends pas. Sur la capture des données, sur BNP Paribas, son dernier rapport annuel, il fait quand même 600 pages. Pour quelqu'un qui connaît, parce que je suis professeur de finance, je peux vous dire, il n'y a jamais eu autant d'informations sur l'exposition au risque de BNP Paribas. Je ne sais pas s'il y en a assez, en tout cas il n'y en a jamais eu autant aujourd'hui sous l'aspect réglementaire de devoir publier un certain nombre d'informations. Je faisais cours déjà il y a 10 ans sur BNP Paribas, j'étais incapable de dire quelle était l'exposition au risque de BNP Paribas. Aujourd'hui je suis capable de dire quelle est l'exposition au risque de BNP Paribas. Est-ce que j'ai la vision complète? Je ne pourrais pas dire que j'en ai une vision complète, mais j'en ai une vision beaucoup plus précise.
Oui, mais moi j'analyse chaque année en détail les 300 pages, 288 cette année, sur le ratio de solvabilité, mais je ne comprends toujours pas comment ils ont calculé leur bilan, parce que je ne le sais pas. Ils le donnent par catégorie, par produit, par machin, il y a plein de détails, mais je ne sais pas. Si je veux vérifier, si je prends le hors-bilan sur machin, et que je veux savoir Je ne sais pas, vous voyez. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a 600 pages de rapport qu'on a accès à la donnée. Vous voyez, c'est mon expérience. Après, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'information, mais on n'a pas l'accès à la donnée sur des choses qui sont des enjeux, qui sont devenus des enjeux publics à cause de ce qu'on disait au début. C'est ce que vous disiez, Marc. C'est que c'est nous qui payons. Donc, voilà.
Alors, on remettait la cause de la comptabilité, on fait tout en cause. Ça coûte
tout trop. Ah, oui, non, mais moi je remets tout en cause. Moi je suis dans une ONG, vous savez, donc moi je
peux. C'est un médecin qui a fait le cours de la finance, c'est-à-dire qu'en fait, on montre les cours de finance en disant ce que j'ai récupéré comme données, pour l'instant, on va considérer que c'est vrai, je pense qu'on démontre que c'est faux. Ah. Donc, ça fait travailler les cours de comptabilité et les cours de finance un peu de façon un peu surréaliste, parce que du coup, a priori, si on accorde zéro confiance à des données, alors même si ce n'est pas de la donnée, en fait.
Même sans forcément tout remettre en cause, il faut déjà savoir que c'est construit et qu'on peut construire différemment selon la façon.
C'est pas des données.
C'est
pas l'accès aux données. Des constructions.
Peut-être que je vais donner la parole à... à Laurence, ou Yamina.
Donc, juste sur l'information qui est donnée par les banques et sur le ratio de Bâle 3, hein, sur une banque comme BNP Paribas ou la Deutsche Bank, des banques qui ont des très grosses activités sur les dérivés, et notamment sur les dérivés OTC, enfin c'est des centaines de milliers de paramètres pour le modèle interne. Comment voulez-vous que le régulateur ait une quelconque... Enfin, je veux dire, c'est manipulable dans tous les sens. Et c'est pour ça que quand vous disiez tout à l'heure quel est le bon niveau de réglementation, sur le ratio de capital, on peut discuter. Sur le ratio de levier, c'est une chose qui est beaucoup plus claire. Et le ratio de capital, il est contesté par les risques et qui est manipulable par les plus grosses. Hein. La manipulation, elle n'est pas faite par la caisse régionale, pas du tout. Elle est faite par les plus grosses banques. C'est là où est le problème. La mère des réformes, c'est la séparation des activités. Parce que c'est-à-dire resegmenter une partie de la finance de manière à ce que la tarification des risques ne tienne pas compte des subventions implicites. Actuellement, quelle est la plus grosse distorsion de concurrence? C'est le fait que les plus grosses banques, à un niveau de risque donné, se financent beaucoup moins cher qu'une plus petite banque, alors même qu'ils font courir à la société un beaucoup plus gros risque. Et que ça, personne n'en a conscience, parce qu'ils affichent des ratios de capital. On dit, on leur a mis un petit surcroît de capital parce qu'ils sont systémiques, etc. En réalité, en termes de levier, actuellement, nos banques françaises, si elles ont une baisse de l'ordre de 4% de leur actif, elles tombent par terre en termes de levier. Actuellement, c'est ça la réalité. Même si elles affichent un ratio de capital qui semble excessivement bon. Et la Deutsche Bank, je ne vous en parle même pas. Or, si une de ces banques, nous, on serait sûrement capable de... Mais si, dans le système bancaire italien, avec ce qui se passe actuellement, vous avez une grande banque italienne qui tombe, eh ben, vous avez des effets en cascade dont personne ne peut dire aujourd'hui qu'ils sont maîtrisables. Et c'est pour ça que, quand on dit, oui, quel est le bon niveau, le bon niveau, c'est de séparer les activités, et après, des capitalisations séparées, et beaucoup plus de capital face aux activités de marché, et interdiction d'un certain nombre de produits financiers dont l'utilité sociale n'est pas avérée.
Pablo Grandjean qui voulait intervenir, et puis après Marc Chenet.
Ça me fait penser ce que vous dites sur les 600 pages de rapport. Avant, je travaillais dans les libertés numériques et on parlait de Google et de ses algorithmes, de Facebook et de ses algorithmes. Les mecs, ils peuvent vous écrire en 600 pages. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, ils peuvent faire un reporting en 600 pages. On comprend rien au sous-jacent. On n'a aucun accès sur la manière dont ils choisissent unilatéralement, sans aucune traçabilité, pourquoi il y a un truc qui s'affiche et pourquoi le reste ne s'affiche pas. Donc Google a un monopole sur qu'est-ce qui est en haut et en bas de l'information sur tout le web. Et c'est traité par une espèce de, j'appellerais ça une capture technologique, pour reprendre Laurence, et qui est du big data, de l'algorithme, et qui est la mathématisation financière de Nicolas Boulot, qui nous explique que c'est incompréhensible, personne ne peut comprendre. Donc le risque est infiniment trop grand, et le régulateur, à mon intuition, encore une fois, le régulateur devrait juste prendre acte qu'il est incapable de maîtriser les risques liés à la technologisation de la finance. Et, il devrait séparer en disant, enfin, c'est même une question, quoi. C'est comme le nucléaire, quoi, ça va être compliqué.
Marc, si tu viens pas, je prendrai
la parole. Merci. Alors, brièvement, en ce qui concerne le niveau informatique du rapport annuel, effectivement, la Suisse correspond à ce qu'on peut observer ici. On est passé de 200-300 pages il y a 20 ans à 900 pages pour le BCP. C'est bien, on aura plus d'informations. J'ai eu ces pages. Je suis incapable de savoir précisément où ils en sont au niveau du bilan. C'est un puzzle, hein, je vois de telle page, qu'on essaye de regrouper l'information. Et c'est très bien fait, hein, ils jouent très bien là-dessus, mais quelqu'un dit tout cela, puis on ne sait pas où on en est. Second point, je suis incapable de savoir exactement le niveau des stock options reçus par le management. Non. Impossible. Mélange, ah ouais, 900 pages, au bout du compte, je ne suis pas plus informé. J'ai perdu mon temps, ça fait point.
Oui, alors, la composition sociale, je voulais aborder peut-être le terrain de la psychologie. Quelqu'un a parlé de Deleuze et des banquiers centraux, je n'ai pas très bien compris l'allusion, mais il se trouve que moi j'ai écrit un livre sur les taux d'intérêt négatifs, parce que je considère que c'est un marqueur d'une pathologie économique grave et qu'on est toujours dans cette situation. Et dans ce livre, j'ai ici, vous pourrez regarder, j'ai écrit 7 chapitres sur les banques centrales et un dernier chapitre sur... un rapport écrit par les banquiers centraux, enfin un certain nombre de banquiers centraux, nommément le groupe G30, et qui est un rapport assez étonnant, qui a une partie d'autocritique faite par les banquiers centraux, alors pas sur l'activité, ceux qui viennent juste de quitter cette activité, en 2015, donc autocritique sur l'anticipation et la gestion de la crise. Et alors, pourquoi je parle de psychologie? Il se trouve que j'ai rencontré, par hasard, le rédacteur de ce rapport, parce que ce rapport, donc, il est une autocritique absolument incroyable sur leur incompétence, en fait, et il n'y a aucune conclusion opérationnelle sur la sortie de crise. Et donc, j'ai interrogé l'auteur de ce rapport, et qui m'a dit qu'en fait, il avait eu beaucoup de mal à le mettre en œuvre, à l'écrire, qu'il avait été censuré sur un certain nombre de choses, qu'il avait été... lui, c'est un ancien banquier central qui a travaillé à la BRI ensuite, et à l'OCDE, et dans le dernier mail qu'il m'a écrit, il me dit de toute façon ce rapport, il est tombé au fond de l'eau, comme on dit en anglais, hein. Il a été complètement abandonné. Et donc je pense que c'est une marque de problème de psychologie cognitive, de dissonance cognitive, c'est que ces banquiers centraux, ils se sont mis en face de leurs difficultés, de leur incompétence, de leur du rôle qu'ils ont, et en fait ils n'en changent rien. Donc on parle de réformer la finance, mais même à l'intérieur du monde financier, ceux qui approchent ces sujets, il y a d'autres exemples d'intervention, par exemple de ce qui s'appelle Buiter au colloque, à la grand-messe monétaire de l'été dans le Wyoming, et ça se termine toujours très très mal. Lorsqu'on arrive à l'intérieur du système, au cœur du système, avec une lecture critique, ça tombe ou ça même éventuellement ça débouche sur un pugilat. Voilà. Donc il y a vraiment un problème, je dirais, de psychologie des organisations, de psychologie collective. Je pense que c'est très intéressant à envisager sur ce sujet.
Merci beaucoup. L'observation de la finance, je reste convaincue, est une chose possible et passionnante. Et comme il a été dit précédemment que parfois on. Pardon, pour rebondir à la question, moi je suis économiste et fière de l'être. En travaillant avec des gestionnaires, des sociologues, j'ai vu qu'ils avaient d'autres types d'approches. Et je pense qu'en fait, ce que nous a appris les études de la finance, c'est la tolérance vis-à-vis des autres disciplines. Et quand. J'ai un regret, c'est qu'au fond, moi je suis appelée pour des thèses qui sont encore une fois en économie, en gestion, en sociaux, en anthropologie. Et oui, je peux comprendre ces différents champs, et je pense qu'on se complète, et que malheureusement, on n'a pas d'espace où on accède à cette tolérance. Et cette tolérance, c'est quelque chose qui me semble fondamental pour vivre en société et surtout pour pouvoir comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Et donc, par exemple, je pense qu'il y a une forme de modestie à avoir et d'acceptation que les autres peuvent apporter à la compréhension du phénomène.
Et pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental. Et qu'on n'enseigne pas assez, qu'on ne transmet pas assez. Et par exemple, j'avais dans le M2 avant-terre, un cours qui s'appelait l'étude sociale de la finance, et ce M2 était ouvert à deux catégories, des gens qui étaient en gestion d'actifs, j'étais responsable du M2 gestion d'actifs, et de l'autre côté, un M2 plus socio-éco. Et c'était très agréable que les deux dialoguent, et qu'effectivement, je pense que c'est très important qu'il y ait des gens qui comprennent exactement ce que c'est qu'un modèle interne, qu'on le forme au contrôle des risques. Mais derrière, alors je vais prendre un exemple très concret, moi j'adore un article de l'Académie qui s'appelle Yuval Milo, et qui montre comment les hedge funds ont réagi en réseau face, c'était à Volkswagen quand vous avez une décote assez forte. Et les mettre ensemble, les gens qui allaient être hedge funds, et pour certains qui font la gestion d'actifs, d'autres qui connaissent la notion de réseau, et bien comprennent que l'un et l'autre ont intérêt à ce type de choses. Et dernier point pour rebondir sur ce que vous avez dit, dans un travail très récent que je mène avec un sociologue qui est plutôt bourdésien, on montre comment les organisations en français, les institutions, sont très segmentées. Et pour cela, on a repris des données qui sont dans le Ouzou et sur LinkedIn pour voir où étaient formés les gens. La question derrière, c'est la question de l'élite financière, mais de voir comment, si on est un banquier, je vais prendre votre exemple, je ne sais pas votre parcours, mais en fait, dans les CA d'administration, on a un certain type de recrutement. Si on est une banque d'investissement américaine, on a d'autres types de recrutement. Et enfin, si on est capital investissement, on a encore d'autres types d'investissement. Et ce qu'on montre, c'est qu'on n'a pas les mêmes modèles d'évaluation. Je ne dis pas qu'il y en a un supérieur à l'autre, mais qu'on est recruté à travers des caractéristiques, des dotations symboliques, des capitaux sociaux, ce que vous voulez, qui vont amener à ce qu'on va aller dans des organisations différentes, et derrière, on produit des évaluations différentes. Et je pense que c'est intéressant de voir que la diversité capitaliste peut être fondée sur la diversité médiane.
Et Jean-Philippe Denis pour conclure.